France Inter, le 6-9 du week-end.
Les fleurs, les arbres, les plantes, la nature, c'est la main verte avec Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Alain Baraton, qui ferait bien de prendre quelques cours d'orthographe. Hier, vous m'avez posé une question sur l'amaryllis. Je vous ai répondu que c'était un mot masculin et non féminin. Vous aviez raison, je me suis trompé. Comment ai-je pu vous reprendre alors que vous étiez dans le vrai? À vous, Pierre, et à tous ceux qui m'ont écouté, mille excuses.
Une amaryllis.
Bien sûr, comme une agapante et non pas un agapante.
Elle est magnifique chez moi.
Voilà.
Des grandes feuilles vertes. Mais pour l'instant, pas de fleurs.
Il faut
mais
attendre.
Ça va venir.
En espérant qu'il y ait la tige, la hampe florale qui porte la fleur. C'est assez merveilleux. Et je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit hier, qu'une fois la floraison faite, ne coupez pas immédiatement cette hampe florale. Attendez que l'ensemble sèche et je prendrai la plante ensuite pour que vous puissiez la récupérer l'an prochain. Ce sera plus sûr.
J'ai pensé à vous hier. En ce moment, on parle beaucoup de tempêtes, de vents violents.
Oui.
Alain Baraton, jardinier en chef du château de Versailles. C'est la mobilisation chez vous à Versailles
Dans tous les parcs de France, partout malheureusement, les arbres qui tombent et qui font des tragédies terribles comme à Paris tout récemment. Donc effectivement, attention, quand les rafales de vent dépassent le 100 km/h, l'arbre est un être vivant, il est incapable de savoir exactement ce qui se passe dans son tronc ou dans la terre. Attention, soyons prudents, un arbre, même s'il est très beau, peut parfois être très dangereux.
Alors ce matin, on va commencer...
Comme vous.
Oui, tout à fait.
Voilà, on va parler des plantes et notamment le fenouil. Alain, qui a toujours été apprécié pour ses vertus médicinales.
Et en ce moment, c'est bien le problème. Je ne cesse de dire qu'il faut être prudent. Un jardinier n'est pas un médecin. Et ce n'est pas parce qu'un légume pousse naturellement dans la nature qu'il est bon pour la santé. Il n'y a rien de plus naturel, par exemple, qu'une omelette aux amanites phalloïdes. Et pourtant, on sait la dangerosité de ces champignons. S'il est déconseillé de manger, et c'est une logique même, des végétaux toxiques, il est tout aussi dangereux de se soigner avec des plantes qui, si elles sont comestibles, voire goûteuses, ne guérissent en rien certaines maladies.
Mais Alain, quel rapport avec le fenouil?
Vous allez comprendre. Depuis toujours ou presque, les jardiniers ont attribué à cette plante de bien étranges facultés, comme les Romains, ceux de la Rome antique bien sûr, qui conseillaient aux malvoyants de se frotter les yeux avec un pied de fenouil pour recouvrer la vue immédiatement. En France aussi, le fenouil était source de légendes. Il se disait au Moyen-Âge qu'il suffisait de glisser dans une serrure une tige de fenouil pour empêcher les sorcières de faire entrer le malheur dans la maison.
Alors fort heureusement, les mentalités ont évolué et plus personne, semble-t-il, aujourd'hui ne croirait en de telles inepties.
Détrompez-vous, et c'est bien là le problème. J'ai reçu quelques lettres d'auditeurs me demandant s'il était vrai que le fenouil pris en infusion permettait de lutter efficacement contre le coronavirus. Je suis allé vérifier sur internet et j'ai vu de mes yeux vus des sites qui reprenaient les propos d'un soi-disant spécialiste brésilien qui prétend que boire deux tasses de fenouil, de thé au fenouil par jour, suffisait pour éviter la contamination. Alors, j'ai été surfé, comme on dit sur le net, et j'ai ainsi appris qu'au Cap-Vert, une île située au large du Sénégal, eh bien, cette prétendue information avait été reprise par les réseaux sociaux. Conséquence, alors que ce petit État ne souffrant rien du coronavirus, le prix du kilo de fenouil a doublé, et il devient même difficile sur place d'en trouver sur les marchés. Comme quoi, voyez-vous, en 2020, on peut encore dire tout et n'importe quoi.
Alain, que pouvez-vous ajouter sur ce fenouil?
Qu'il est de culture facile et très décorative dans un potager, avec ses feuilles très découpées et ses fleurs jaunes disposées en ombelles, qu'il est toujours apprécié en cuisine pour son goût anisé et sa saveur si particulière, c'est tout, mais c'est déjà largement suffisant.
Les questions
si vous
pour
êtes
vous...
sage, je vous ferai une tatin au fenouil, c'est absolument délicieux.
Eh bien écoutez, les auditeurs sont témoins, je vous promets que dès que le fenouil est prêt, je vous en porte. Pierre, bien entendu, se joindra à la dégustation.
Oui.
Les commentaires arriveront la semaine suivante.
Les questions pour Alain Baraton sur le site de l'émission Miguel. Quelle est la distance idéale de plantation entre deux arbres?
Alors c'est une bonne question. Il faut toujours que l'arbre puisse vraiment, déployer ses branches. On a toujours trop tendance, surtout d'ailleurs dans les jardins historiques, à planter trop proche. Quand vous plantez, par exemple, Pierre, deux tilleuls trop rapprochés, la plante cherche la lumière, elle développe sa ramure sur la hauteur au détriment de l'épaisseur de la largeur et la plante se fragilise. Elle a besoin d'espace. Alors autant des peupliers peuvent être plantés à quelques mètres à peine de distance parce que leur port est j'allais dire élancés, autant les arbres à d'apparence classique comme les chênes, comme les tilleuls, 7, 8, voire 10 mètres, les arbres mettent du temps à pousser, mais quand ils poussent vite, laissons aux plantes de quoi respirer.
Marine nous écrit, quand faut-il planter et tailler les agapanthes?
Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure, les agapanthes, cette plante très symbolique des régions côtières, elle est magnifique, c'est au printemps qu'on va les planter, c'est au printemps qu'on peut également les multiplier, et là encore, quand la tige est fanée, il est recommandé de couper la hampe qui a porté la fleur, parce que les fleurs fanées sont toujours source d'épuisement pour les plantes. Savez-vous, Pierre, ce que devient une fleur quand elle a fané?
Non.
Elle devient une graine. Or, la fabrication de la graine fatigue le végétal. C'était pas un piège, bien évidemment.
Absolument. Vous connaissez mes connaissances immenses en matière de fleurs, d'arbres, mais j'ai appris plein de choses avec vous. C'est formidable. Ah ben
c'est très aimable.
Robert, quelle est la différence entre un pétunia et un surfinia?
Un surfinia, c'est la mode moderne du pétunia. C'est tout simplement une variété de pétunia. Donc les surfinias sont des pétunias, tout comme, pour faire simple, on parle souvent de la différence entre les jonquilles et les narcisses. Eh bien, les jonquilles sont tout simplement des variétés de narcisses avec des feuilles en forme de jonquilles. Narcisse n'est pas plus compliqué.
Agnès, conseillez-vous de remplacer de temps à autre les écorces de pin disposées sur un massif de rosiers?
Oui, Pierre, c'est ce que l'on appelle le paillage. Le paillage, c'est une disposition d'écorces ou de déchets de toutes sortes qui a pour avantage de faire une épaisseur au niveau du sol pour limiter le développement des mauvaises herbes parce qu'elles sont privées de lumière et pour réduire les besoins en eau car forcément il y a moins d'évaporation. Attention, trop d'épaisseur fait que quand il pleut après une période de sécheresse, c'est plus la terre qui est mouillée. C'est justement le paillage. Oui, les écorces se dégradent et en se dégradant, elles vont changer la structure du sol et les écorces de pin ne conviennent pas aux rosiers. Donc changez effectivement tous les 2 ou 3 ans les écorces de pin avant qu'elles ne se dégradent. En plus, ce n'est pas très beau.
Morgane, dernière question. J'ai oublié dans le potager des pommes de terre. Sont-elles encore bonnes? C'est bizarre comme question.
Non,
ça
veut dire que vous avez des gens qui ont des potagers. Oui. Et puis, ils se sont rendus compte quelques temps plus tard en retournant qu'il restait encore des pommes de terre qui n'avaient pas été récoltées en été. D'accord. Sont-elles encore bonnes? Oui, à condition qu'elles n'aient pas pris la lumière, donc qu'elles soient marron. Attention, elles peuvent avoir. Faut pas qu'elles soient molles. Faut qu'elles soient bien compactes. Et en espérant que les mulots et surmulots n'avaient pas eu envie de les boulotter. C'est la meilleure méthode pour attirer d'ailleurs toutes les vermines dans le coin.
Alain, un conseil de lecture.
Ah, une très belle publication. Narcisse ou la floraison des mondes. Avant, on parlait des fleurs comme nature morte. Aujourd'hui, c'est plus du tout des natures mortes. Peut-on parler du bouquet de Jeff Koons comme une nature morte? C'est publié par Actes Sud. C'est un ouvrage collectif. Donc, Narcisse ou la floraison des mondes, c'est tout simplement l'histoire des fleurs dans l'art contemporain.
Alain Baraton, La Main Verte, à la semaine prochaine, samedi et dimanche, vers 8h moins le quart, avec Patricia Martin et Éric Delvaux.
Avec plaisir, à très vite.